Histoire d'Afrique avec Nadir Djennad sur Africa Radio.
Bonjour à tous. L'histoire nous aide à entrevoir d'où nous venons et où nous allons. Il y a 41 ans, en Égypte, le 6 octobre 1981, c'était le choc et la stupeur. Le président Anwar El Sadat était assassiné alors qu'il assistait à un défilé militaire au Caire. Stéphane Lacroix est professeur de sciences politiques à Sciences Po et chercheur au Centre d'études et de recherche internationale, spécialiste de l'Égypte. Il a notamment écrit avec Bernard Rougier « L'Égypte en révolution » aux éditions Presse universitaire de France.
Le 6 octobre 1981, c'est la commémoration de la guerre, ce qu'on appelle la guerre de Yom Kippour, hein, que les Égyptiens appellent la guerre de Ramadan. On commémore cette semi-victoire considérée en Égypte comme une victoire pleine et entière de 73, à l'occasion d'un défilé militaire qui a lieu au Caire et auquel assiste le président Sadat. Et c'est lors de ce défilé militaire que l'un des militaires qui donc parade devant lui, hein, Sadat est sur la tribune présidentielle, et donc l'un de ses militaires sort son arme et tire sur la tribune et abat le président Sadat et un certain nombre des gens qui se trouvent autour de lui.
Qui a tué le président égyptien Anwar El Sadat?
Alors c'est quelqu'un qui s'appelle Khaled El Islambouli, et c'est un militant islamiste qui appartient à une cellule islamiste qui s'est constituée au Caire dans les années 70. Dans cette mouvance islamiste, il y a des factions extrêmement diverses. Vous avez des gens comme les frères musulmans qui sont partisans de la méthode douce. Hein. Les frères musulmans ne sont pas partisans du coup d'État et sont partisans de méthodes légalistes, entre guillemets. Hein. Les frères musulmans ne sont pas dans une logique insurrectionnelle. Mais on voit aussi des groupes plus violents se constituer dans les années 70 qui, eux, prônent le coup d'État. C'est-à-dire veulent renverser le pouvoir par la force, par la violence, et instaurer l'État islamique, donc par un coup de force. Et Khaled El Islambouli, il appartient à l'une de ces cellules, qui sont donc des islamistes armés, révolutionnaires, pourrait-on dire, qui se constituent dans cette période donc de relative bienveillance du pouvoir à l'égard des mouvements islamistes. Et évidemment, pour ces mouvements islamistes dans leur totalité, la signature du traité de paix avec Israël, un des accords de Camp David, eh bien, c'est l'humiliation suprême. Pour eux, ça prouve que Sadat est devenu un apostat. C'est-à-dire, il ne peut plus, après avoir fait ce qu'il a fait, se réclamer de l'islam. Et dès lors, ils ont d'autres griefs à l'égard de Sadat, par ailleurs, en particulier qu'ils considèrent qu'il n'applique pas suffisamment la charia, c'est-à-dire la loi de Dieu. Donc, ils ont toute une série de griefs à l'égard de Sadat. Et c'est tout ça qui va précipiter donc l'assassinat de Sadat.
Anwar El Sadat était l'homme à abattre pour les islamistes radicaux, alors que de nombreux militants extrémistes religieux ont été libérés de prison sous sa présidence et que la charia, la loi islamique, a été introduite dans la Constitution. Après la mort de Sadat, les islamistes sont traqués. Stéphane Lacroix.
La mouvance islamiste dans sa totalité est visée par une vague de répression extrêmement dure qui va toucher des milliers et des milliers de militants islamistes à travers le pays, de toutes les tendances d'ailleurs. Hein. Le pouvoir d'une certaine manière ne fait pas dans la dentelle, il ne se contente pas d'arrêter ceux qui sont directement liés à l'assassinat de Sadat, mais très très largement en fait, les milieux islamistes sont touchés par des vagues de milliers d'arrestations. Ça va donner lieu à des procès un peu spectacle où on va voir là encore tous les militants impliqués dans l'assassinat de Sadat être jugés, et ça va donner donc lieu pendant quelques années à une politique de répression à l'égard des islamistes. Ce qui est intéressant, cela dit, c'est que Moubarak va très tôt, dès 84, changer de stratégie et va décider à partir de 84 que la meilleure manière, c'est de distinguer les islamistes violents des islamistes pacifiques. Et qu'il faut s'appuyer, dans une certaine mesure, sur les islamistes pacifiques pour contrer les islamistes violents. Donc à partir de 84, ce que va faire Moubarak, c'est qu'il va continuer à traquer les islamistes violents qui veulent donc la prise de pouvoir par la force. Mais il va libérer les frères musulmans et autoriser les frères musulmans à entrer en politique.
Stéphane Lacroix, professeur de sciences politiques à Sciences Po et chercheur au Centre d'études et de recherche internationale, spécialiste de l'Égypte. Il a notamment écrit avec Bernard Rougier « L'Égypte en révolution » aux éditions Presse universitaire de France. Alors, que reste-t-il de l'action menée par Anwar el-Sadat dans l'Égypte d'aujourd'hui? Ahmed Youssef est journaliste et historien égyptien.
C'est l'homme qui a mené la guerre de Kippour, la guerre d'octobre 73, contre donc Israël. Et donc, dans la mémoire collective des Égyptiens et des Arabes en général, c'est que c'était vraiment le chef qui a amené donc la victoire. Là, les Arabes ont été humiliés dans la guerre de 67, il y a des séjours, et là, il a su rendre un peu de fierté aux Arabes. Donc, ça reste ça jusqu'à aujourd'hui, 6 octobre. Donc, sur les chaînes de télévision arabes, égyptiennes notamment, on chante donc la bravoure de Sadat. Donc, elle reste aux yeux des Égyptiens, comme on le dit, donc les héros de la guerre et de la paix. Et il a tendu la main aux islamistes, donc, et il l'a payé. C'était une grande leçon de l'histoire, qu'on ne peut pas leur faire confiance. L'homme de la guerre et de la paix, comme ça on l'appelle.
Ahmed Youssef, journaliste et historien égyptien. Pour certains Égyptiens, Anwar el-Sadat était un grand homme d'État, courageux et visionnaire, qui a conclu la paix avec Israël. Pour d'autres, un politicien rusé qui a ouvert la porte aux islamistes. Cependant, tout le monde reconnaît qu'il a façonné l'Égypte d'aujourd'hui et marqué durablement le Moyen-Orient. Bonne journée à tous.